La radio est un art aveugle.
Yeah, it's quite cool.
Et ensuite,
au début, c'était des déformations, c'était des coupures.
Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe.
Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus.
Énormément, très méchants.
Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Avant de découvrir celle qui est l'actrice du podcast aujourd'hui, la petite citation. Alors non, en fait aujourd'hui il y en a deux parce que j'ai pas réussi à me mettre d'accord avec moi-même. Il y avait deux citations de deux auteurs québécois, enfin l'un est écrivain, l'autre est prêtre. Alors je me suis dit pour une fois, eh bien nous allons avoir deux citations. La première, elle nous vient de Louis Gauthier qui est écrivain. Un Québécois, au lieu d'imaginer que nous avons des droits alors que nous n'en avons aucun, nous saurions que nous avons seulement le devoir d'être heureux et de montrer que nous le sommes, d'être polis et de partir à temps. Et le second, donc, d'un prêtre québécois, le moment présent est la piste désignée à tout nouveau départ. Et bien sûr, je vous rassure, ce prêtre québécois a un nom, il s'appelle Louis-Marie Parent. Alors, qui est l'actrice du podcast aujourd'hui ? Qui est l'actrice du podcast aujourd'hui ? Eh bien, c'est presque une aventurière. Elle a travaillé en radio, elle a travaillé en TV, elle a fait des fouilles archéologiques, elle a enseigné le latin à Rome. Elle vient de sortir son deuxième roman, Living Belgovia, qui fait suite à Forget Belgovia, tous deux publiés chez Eddie Livre. Alors, il s'agit en fait d'une critique sociale sur le thème de l'exclusion en général, personnalisée ici par une personne atteinte d'une pathologie rare en recherche identitaire dans le cadre d'une société gangrénée par les abus de pouvoir et la corruption généralisée. Bonjour Alexandra, alors merci d'avoir accepté de vous faire interviewer. On ne dira pas où on est, comme ça on ne saura pas vous découvrir, parce qu'en fait, Alexandra Monténégro, c'est un pseudo. Pourquoi avoir choisi un pseudo, Alexandra ?
Alors, ce bouquin a été réalisé pour remettre en selle le premier bouquin où je dénonçais pas mal de dérives médicales. Et c'est sur conseil d'un médecin que j'ai changé et mon nom et que j'ai fait de notre pays un pays imaginaire.
Living Belgovia fait suite à Forget Belgovia. Donc on dit toujours jamais 203. Est-ce qu'il pourrait y avoir une trilogie ? Est-ce qu'on pourrait un jour avoir un troisième roman ?
En fait, c'est quelque part déjà en cours. Et comme moi, je prends énormément de temps et de recul, puisque je réalise des critiques sociales, il me faut un certain recul. Il y aura un troisième, évidemment, tome, qui sera certainement intitulé « Out of Belgovia ».
Qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'écrire « Forget Belgovia » ?
Toujours l'injustice. L'injustice sociale, la corruption, donner de la voix, ce que je veux faire, c'est donner de la voix à ceux qui n'en ont pas. Voilà, je ne sais pas, ça a déclenché des chocs personnels aussi, ont déclenché l'écriture. Voilà, les circonstances, la multiplication autour de moi de phénomènes, de sociétés, d'injustices, les inondations, l'épidémie, tout ça nécessitait une réflexion, voilà, une critique, un retour sur soi.
Que raconte Forget Belgovia ?
Alors, comme il fait suite, Forget Belgovia ou Living ? Forget ?
Le dernier.
Le dernier, c'est Living. En fait, il fait suite à Forget Belgovia. Forget Belgovia, le premier, c'était l'exclamation d'un médecin qui m'avait conseillé de quitter le territoire belgovien parce que les personnes atteintes de maladies rares ne pouvaient, selon lui, y être diagnostiquées et suivies comme il faut. Et donc ici, la personne, dans Living Belgovia, elle prend cette décision après avoir finalement reçu un diagnostic et avoir reçu un traitement, mais qu'elle ne peut pas poursuivre pour diverses raisons, elle prend la décision de quitter définitivement son pays. Parce qu'il n'y a pas que le problème du mauvais suivi et des lacunes médicales qui provoquent l'exclusion sociale. D'autres phénomènes autour d'elle font qu'elle ne peut prendre que cette décision-là. Et notamment la corruption qui sévit dans la petite province qu'elle habite.
Vous avez vécu une vie assez riche. Par exemple, j'ai appris que vous avez fait des fouilles en Palestine. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous parler de ces fouilles et puis de tout ce que vous avez fait ? Vous avez travaillé à TF1, entre autres, aussi.
Oui, en réalité, j'ai fait des études d'archéologie du Proche-Orient à Rome. Et pendant mes études, comme c'était des études déjà de spécialisation, je devais faire des fouilles en Syrie. Parce que j'avais un professeur qui avait découvert un site, Ebla en l'occurrence, en Syrie. Et, mais il n'y avait pas de place. Et puis l'équipe s'est fait éjecter par le papa de Bachar el-Assad parce qu'elle avait trouvé des connexions avec Israël. Donc c'était très mauvais. C'était des grands spécialistes des cultures moyen-orientales. Et puis, grâce à des amis que j'avais rencontrés déjà en Palestine, j'ai reçu une revue biblique qui, dans laquelle on recrutait des personnes volontaires étudiant l'archéologie pour faire des fouilles avec le CNRS français en Israël ou en Palestine, comme on veut. Et donc, je me suis retrouvée avec une équipe française à fouiller à Tel Yarmouth, qui est un peu l'Emmaüs biblique, entre Tel Aviv et Jérusalem. Et j'ai vécu des aventures incroyables, mais je ne m'en doutais absolument pas. J'ai quitté les fouilles pour loger chez les sœurs de Sion, parce que j'étais un peu à court de ressources. Et là, comme j'étais dans le quartier arabe, il se passait des tas de choses, des gaz lacrymogènes. On m'a jeté des pierres en pensant que j'étais une touriste américaine ou israélienne. J'ai voyagé dans des bus criblés de balles. Puis quand j'arrive à Bethléem, il y a une confrontation entre Israéliens et Palestiniens. Nous, les touristes, on se casse dans les églises, les voitures brûlent. Je ne peux pas du tout circuler comme je voulais. Et je me suis souvenue de ce que m'a dit l'archéologue. Mais je dois prévenir le gouvernement parce que vous ne vous rendez absolument pas compte, c'est un pays en guerre. Et là, ça fait tilt. Effectivement, c'était vraiment une aventure de guerre que j'avais évitée à Rome parce que j'étais traductrice pour l'envoyée spéciale qui ne parlait pas italien et l'envoyée spéciale de TF1. Et elle est partie à l'époque en Yougoslavie faire le reportage de la guerre. Et moi, comme je n'avais pas les papiers, je suis restée à la frontière à Trieste. Et vu ce qui lui est arrivé après, je ne m'en plains pas parce qu'elle a été quelque part emprisonnée par les forces slovènes en tout cas, mise en quarantaine dans un hôtel et elle n'a pas pu réaliser son reportage de toute façon. Donc oui, j'ai vécu à cette époque-là où j'étudiais l'archéologie du Proche-Orient, beaucoup d'aventures. J'ai fini par enseigner le latin et l'allemand dans un lycée français de diplomates où les enfants avaient des problèmes, disons, psychologiques parce qu'ils étaient déracinés. Et donc je pouvais quelque part m'identifier avec eux avant de rentrer en Belgovie. De vivre un peu à Bruxelles aussi et de voir les choses de plus près, que ce soit sur le plan judiciaire, le plan social, dans le monde du travail et d'en tirer certaines conclusions que vous pourrez découvrir dans mon livre.
Alors, j'ai une question à vous poser. Belgovia, est-ce que c'est comme la Sildavie? Ce sont des endroits imaginaires? Ou bien ils existent vraiment? Je parle de Belgovie.
Alors quelque part, Belgovia, je ne sais pas pourquoi, je l'ai inventé. Mon pseudo, lui, il coule de source parce que mes grands-parents sont originaires du Monténégro. Mais Belgovie, c'était un peu comme ça me faisait penser à la Yougoslavie, ça me faisait penser un peu à ce qui est arrivé au téléjournal en direct. Moi, je l'ai pris au sérieux quand ils ont annoncé la fin de la Belgique. Et quelque part, moi, c'était dramatique pour moi parce que je me disais, voilà, ça se reproduit, quelle horreur, un peu comme actuellement la guerre en Ukraine. Et je me suis dit, c'est l'idéal, c'est pour montrer quelque chose qui se désagrège, qui ne va pas. Et comme le personnage central fait des voyages dans les villes flamandes, on pourrait dire que c'est peut-être pas la Belgique, la Belgovie, mais que peut-être c'est la Wallonie.
Votre roman est une critique assez acerbe de la Wallonie ?
On pourrait dire ça. On pourrait dire ça malheureusement. Voilà.
Dans Living Belgovia, vous parlez beaucoup de vous, hein. Vous parlez entre autres de Michel. Ça veut dire que vous avez mis des éléments de votre vie, je ne vais pas dire intime, mais très personnelle?
Alors j'ai mis mon expérience juridique et sociale au service du livre. Là où le livre n'est pas vraiment un témoignage, c'est que pour exprimer certaines idées ou pour conclure certaines histoires, j'ai inventé. Et c'est inspiré, évidemment. Moi, je pense que tout livre est inspiré, sauf une fantaisie de science-fiction, etc., d'expérience personnelle. Mais certaines histoires sont enjolivées ou symboliques. Et effectivement, j'ai accompagné, par exemple, une personne qui était internée. Oui, j'ai rendu des visites en prison, mais j'ai travaillé aussi en prison comme traducteur juré.
Que représente la ville de Rome pour vous ?
Ben, Rome, à un moment donné de ma vie, elle représentait tout. Pour moi, c'était l'idéal. C'était la ville idéale, la ville de la Renaissance. J'ai vraiment flashé sur Rome comme on flasherait sur un amoureux. Et je n'imaginais pas quitter cette ville. C'est vraiment quelque part forcée, contrainte à cause de problèmes de papier, de complications bureaucratiques à l'époque. J'étais obligée de la quitter à l'issue de mes études, comme c'est souvent le cas, et parce que en Italie, on n'a pas vraiment de contrat de travail qu'on peut présenter à la questura, c'est-à-dire la préfecture, pour pouvoir prolonger un séjour, voilà, tout simplement. Pour moi, Rome, c'était comme ça, ma conversion au christianisme était récente, ça représentait vraiment quelque chose d'exceptionnel aussi.
Vous parlez de conversion au christianisme, ça veut dire que la foi joue un rôle important dans votre vie ?
Oui, la foi, disons qu'actuellement, peut-être moins, mais à une certaine époque de ma vie, l'époque où je suis partie à Rome, je dirais que c'est grâce à certains écrits, notamment Dostoïevski et le Nouveau Testament, les écrits de Saint Paul, que je suis toujours en vie.
Dans Living Belgovia, vous parlez d'exclusion, mais est-ce que c'est un sentiment que l'on ressent d'exclusion ou bien l'exclusion est une réalité ?
Ce que je peux vous dire, c'est que l'exclusion est aussi un sentiment, mais dans la province que je critique, c'est une réalité parce qu'elle est subtile, mais certaines choses qui sont perverties, qui devraient vous insérer, conduisent plutôt à l'exclusion. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous cherchez un logement, c'est dans mon livre aussi, plutôt le premier que le second. Vous cherchez un logement et on va vous dire, vous êtes un allocataire social. Vous êtes exclu. Nous ne prenons pas des mauvais payeurs. Alors vous posez la question, pourquoi un allocataire social sera un mauvais payeur ? Oui, parce qu'on n'a pas la garantie qu'on va continuer à vous garder sur la sécurité sociale, on va dire vous émarger à la sécurité. C'est méprisant pour quelqu'un qui est un vrai malade, un véritable handicapé. Et en essayant, par exemple, de faire reconnaître mon handicap, j'ai vécu une véritable maltraitance et je peux vous expliquer pour avoir reçu divers témoignages allant dans ce sens, notamment au cours d'une émission radio, que beaucoup de personnes ont vécu la même chose et qu'elles n'ont même pas survécu. Parce que quand vous êtes harcelé, que ce soit au travail ou en tant que malade, vous pouvez très bien vous suicider ou mourir de votre maladie. Donc ce que je dénonce dans ces livres est extrêmement grave, sous le couvert d'une fiction soi-disant autobiographique, mais qui concerne en réalité beaucoup de personnes.
La société dont vous parlez dans votre livre est gangrénée par les abus de pouvoir et la corruption, mais est-ce que dans le fond, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? Est-ce que dans le fond, aller dans un autre pays, on parlait de l'Italie, ben, y a aussi de la corruption. Donc c'est partout pareil.
Alors, c'est pas partout pareil, parce que ici, c'est une micro-société que même certaines personnes au pouvoir dénoncent comme étant une espèce de concentration d'entre-soi et de corruption absolument inouïe pour une si petite entité. Et des dérives telles qu'elles mènent au cœur de l'Europe à un État qui n'est pas démocratique, c'est-à-dire un État qui n'est plus un État de droit. Et ça, je peux vous le dire parce que j'ai travaillé au service de la police fédérale, que j'écoute notamment le juge Claes, et que ça n'a rien d'une subjectivité. Alors, l'herbe n'est pas beaucoup plus verte ailleurs dans certains milieux et pour certains abus, certaines corruptions et la criminalité organisée partout. Mais nous, je dois dire que pour un petit pays comme ça, qui est la capitale de l'Europe, nous battons tous les records et notre province est une championne de l'entre-soi et de l'exclusion.
Si on devrait vous donner une possibilité de déménager, d'aller habiter un autre pays, vous choisiriez lequel ?
Alors, mon cœur dirait l'Italie. mais je n'y suis plus depuis très longtemps. Et les aventures que j'ai vécues dernièrement et que j'évoque dans mon bouquin me ramèneraient plutôt à mes origines.
2024, en Belgique, il y a des élections. On dit, tiens, la Wallonie pourrait rejoindre la France. Vous croyez en l'avenir de la Belgique, telle qu'elle existe aujourd'hui? Vous croyez qu'elle sera toujours là dans 10 ans? Ou bien vous pensez que ce sera peut-être 2 pays, voire 3?
Récemment, j'ai parlé avec le bourgmestre de Liège, qui m'a expliqué que la Belgique, dans les faits, n'existait pas. Donc je ne sais pas comment vous répondre. Je dois dire que pour moi, c'est un peu choquant d'entendre ça. Parce que j'ai demandé où était l'aide fédérale pour les personnes qui ont été inondées. Et il m'a expliqué qu'il fallait l'oublier parce qu'il n'y avait aucune solidarité fédérale et que la Belgique était déjà une espèce d'idée, mais pas quelque chose de concret. Donc elle existera peut-être, mais ce sera une entité vidée de sa substance. Elle l'est peut-être déjà. Alors pour la Wallonie elle-même, je me demande si ce serait pas bien qu'on soit mis sous tutelle. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais sous tutelle européenne carrément. Parce que contrairement à d'aucuns qui disent que tout va bien, je pense qu'on est... On est extrêmement endetté, que certains problèmes sont vraiment urgents. On le voit tous les jours dans la rue à Liège, l'insécurité, la drogue, l'alcool, la criminalité et beaucoup de personnes invisibles aussi qui sont dans la pauvreté. Donc voilà, c'est un peu ce que je pense.
Dans vos 2 livres, à la fois Living Belgovia et puis le premier Forget Belgovia, il y a un message. Vous espérez quoi en fait de ce livre? Les gens vont le lire. Quel changement vous espérez?
Oui, alors vous avez compris Eric, j'écris pas du tout pour le plaisir. J'écris pour dénoncer des abus. J'espère ouvrir peut-être les yeux de certaines personnes qui pensent que tout va bien parce que tout va bien pour elles. C'est pas ça une société démocratique. Il faut que ça aille bien pour une majorité de personnes, que les droits soient les mêmes pour tous, que l'accès au travail, à la santé, au dédommagement soit le même pour tous. Et voilà, j'aimerais les interpeller un peu comme très modestement, comme le fait le juge Claes par exemple avec des conférences. Moi je fais ce que je peux.
Est-ce qu'on ne pourrait pas vous reprocher d'être trop négative? Et peut-être on pourrait vous dire, mais ouvre les yeux, il y a quand même des belles choses qui se passent en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre.
Absolument, je ne suis pas du tout inconsciente des belles choses et c'est plutôt à ces choses-là que je me suis accrochée pendant des années. Sinon, je ne serais pas restée ici. Et c'est justement parce que je souhaite le bien de la Wallonie et même au-delà de la Belgique et que j'admire certaines villes, certains artistes énormément, qui d'ailleurs ont été exclus de Belgique pour pouvoir réaliser leurs œuvres, que je critique. Parce que bon Dieu, il faut se réveiller, quoi. Voilà.
Alors on va terminer avec une dernière question. Et maintenant, quels sont vos projets? On sait qu'il y a un troisième livre en préparation. Et de votre côté à vous, il y a un retour vers Rome qui est prévu? Ou bien vous allez continuer à vous battre en Belgovie?
Pour le moment, je continue à me battre en Belgovie. Mais je dois dire que pour sauver ma peau quelque part, je dois prendre des distances et lâcher un peu prise. Parce que comme le disait un personnage, un employé communal dans mon livre Living Belgovia, vous êtes seul contre tous et seul contre tous, contrairement à ce que dit Hollywood, on ne gagne pas. Et donc si on ne veut pas verser dans l'autodestruction, il faut se préserver. Donc je vais prendre des distances mentales et peut-être géographiques. Et on va voir pour la suite.
Merci à vous Alexandra Monténégro d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle le titre de votre deuxième roman, Living Belgovia, paru chez Edilivre. Il fait suite à Forget Belgovia, publié aussi chez Edilivre. Alors avant de vous lâcher, vous les auditeurs, n'hésitez pas à liker ce podcast si vous l'avez aimé. Partagez-le également sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner, ce qui vous permettra d'être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Un commentaire est toujours le bienvenu. Alors, je vous dis d'avance, merci, que la force soit avec vous et avec tous les autres, et à très bientôt.
Ça y est, c'est fini.